Nous sommes conscients de la grâce qui nous a été faite. Nous aimons certains textes bibliques. Vous aimez par exemple le texte « L'Éternel est mon berger » ? La suite c'est quoi ? Comment ? Je ne manquerai de rien. Vous aimez ce psaume ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un merveilleux psaume. Bon, c'est une chose de lire le premier verset, et pourtant parfois nous nous retrouvons à manquer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous nous retrouvons à manquer de certaines choses. Alors il y a des choses, c'est normal. Ça peut arriver qu'il manque certaines choses dans la vie. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'identifier au psaume 23. Mais il y a des fois où nous pourrions plus facilement nous identifier à la lecture que nous allons faire dans l'évangile de Luc. Au chapitre 11, le Seigneur enseigne sur la prière. Parce que la prière, c'est vraiment la respiration de l'âme. Nous avons besoin de prier. Si vous n'avez plus besoin de prier, ce n'est pas bon signe. Luc chapitre 11, Jésus enseigne le Notre Père. Dans cette version-là, on la lit rarement. Luc chapitre 11, verset 2. Luc chapitre 11, verset 2, il leur dit, donc c'est Jésus qui parle. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, je rappelle, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. J'avais presque envie de donner comme titre à cette prédication « Et moi », c'est Jésus qui parle, c'est signé le Seigneur Jésus. « Et moi, je vous dis, demandez. » Lorsque nous ne sommes pas chrétiens, la Bible nous voit comme étant morts. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. C'est quoi qui était mort quand on n'était pas chrétien? Qu'est-ce que c'est qui était mort? Est-ce que vous mangiez quand vous n'étiez pas chrétien? Votre corps était-il mort quand vous étiez chrétien? Mais non, vous mangiez, vous respiriez. Est-ce que votre âme était morte? Est-ce que vous aviez des émotions? Est-ce que vous aviez des sentiments? Est-ce que vous étiez capable d'avoir une volonté, etc.? Oui, donc vous aviez un psychisme, une âme vivante. C'est notre esprit qui était mort. C'est notre esprit. Nous avions un corps et une âme qui fonctionnaient. Est-ce que vous aviez des émotions quand vous n'étiez pas chrétien? Bien sûr. Mais c'est notre esprit qui était mort. Et souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, sans s'en rendre peut-être compte, ressemblent certains à Lazare. Vous savez quand Lazare est ressuscité? Comment il était, Lazare? Vous vous rappelez comment il était? Vous connaissez cette histoire? Il était déjà en état de putréfaction. Il était mort depuis plusieurs jours. Et lorsque Jésus arrive, il demande à Marthe et à Marie de rouler la pierre. Et il va prononcer 2 mots. Lazare sort. Et Lazare sort. Comment il sort? Vous vous rappelez comment il est? Il est lié. il est lié de bandelettes. Et il représente les chrétiens qui étaient morts, qui sont ressuscités, mais qui sont malgré tout encore, certains, sont encore ligotés, liés. Beaucoup de chrétiens sont enfermés, paralysés, bloqués, dans la crainte, dans l'inquiétude, etc. Et bien sûr que le Seigneur, il sait ces choses. Il sait si quelqu'un ce matin est bloqué par un problème. Et Jésus va dire à Marthe et à Marie, déliez-le. Est-ce que Jésus aurait pu rouler la pierre, premièrement? Est-ce qu'il aurait pu rouler la pierre en parlant? Est-ce qu'il aurait pu parler à la pierre et la pierre rouler? Est-ce qu'il pouvait le faire? Bon. Est-ce qu'il pouvait faire en sorte que Lazare sorte de son tombeau délié? Est-ce qu'il pouvait le faire? Oui, bien sûr. Lorsqu'on va ressusciter, lorsque les morts vont ressusciter à l'enlèvement de l'Église, laissez-moi vous dire que tout le monde va être délié. Vous êtes d'accord? On ne va pas partir dans les cercueils. On va partir dans la gloire, dans un corps. Les morts vont revêtir l'immortalité, les chrétiens vont revêtir l'incorruptibilité, ça va être la fête. Mais en attendant, il y a ceux qui peuvent dire honnêtement, l'Éternel est mon berger, oui, je ne manque de rien. Et en même temps, je suis frustré. Parce que je ne peux pas faire certaines choses que je devrais faire. Et nous avons peut-être toute cette ambivalence dans notre cœur. Oui, je sais que le Seigneur, il est mon berger. Je le sais. Je le sais. Il est mon berger. Je manque de rien. Ce matin, si quelqu'un a besoin de paix, est-ce que Dieu peut la lui donner? Ben ouais. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Si quelqu'un a besoin de pardon, est-ce que quelqu'un peut avoir le pardon? Ben oui. Ben oui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et pourtant, bien souvent, nous nous retrouvons dans cette situation. Seigneur, comme dit le cantique, comme dit le texte, le cantique est tiré de ce texte au verset 6, je n'ai rien à lui offrir. C'est frustrant de s'être fait voler certaines faveurs, certains dons, certains talents, certaines choses que le Seigneur nous avait données. C'est vrai que le diable est un voleur, c'est vrai qu'il y a un combat spirituel, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout présenter d'une manière humaine, ça serait pas sain. Il y a un combat spirituel, vous le savez qu'il y a un combat, plusieurs l'ont dit dans les prières, malgré mes combats, eh bien Seigneur je veux te louer, malgré mes luttes, on est dans un combat. Il y a des choses qu'on ne voit pas, notre frère Janson parlait des anges qui ont été dépêchés par Dieu pour faire certaines choses, nous ne nous rendons pas compte quel est le combat spirituel. Je pense que beaucoup de chrétiens ne combattent pas ou ne combattent plus ou combattent mal, ne comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas ces choses. Bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on les voit puisqu'elles sont invisibles. Mais quand même, Dieu nous rappelle dans sa parole qu'il faut voir certaines choses. Il faut les discerner. C'est important de demander le discernement. Oui, est-ce que c'est une prière que vous faites? Seigneur, accorde-moi du discernement. Est-ce que vous la faites, cette prière? Est-ce que vous la faites de temps en temps? Il faut la faire. David disait dans le psaume 119, verset 66, pour ceux qui apprennent des versets par cœur, « Accorde-moi du bon sens et de l'intelligence. Enseigne-moi le bon sens. » Ça s'enseigne, le bon sens. Il y a des chrétiens, ils n'ont aucun bon sens. Ils voient dans un problème, voilà un problème, paf, c'est ça. Non, si Dieu nous demande le discernement, c'est parce que chaque problème est différent. Et nous devons apprendre certaines choses. Et nous devons peut-être voir qu'il y a un combat. En préparant ce culte, je pensais à Élisée. Vous savez, lorsque le roi de Syrie faisait des plans pour attaquer Dothan, comme la Samarie. Vous vous rappelez ce texte? Le roi de Syrie, il envoyait il voulait envoyer ses troupes, et puis paf, au dernier moment, tout était déjoué. Alors, en bout d'un moment, il a dit, mais il y a une taupe dans l'armée. Mais c'est pas dit comme ça, mais enfin, c'est pareil. Et puis, il y a un gars qui m'a dit, mais non, n'y a personne qui est traître dans l'armée. C'est qu'en Israël, il y a un prophète qui avertit le roi et qui lui dit tout ce que tu vas faire. Alors bien sûr, ce roi, il a dit, il faut arrêter ce prophète. Il est à Dothan. Alors on va quand même lire, je crois que c'est dans Deux Rois. Et on va lire quand même la conclusion. Vous savez, ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, ouais, mais ces choses, elles ont été écrites il y a 3000 ans, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Eh bien oui, croyez-moi. Dans Deux Rois, chapitre 6. Vous savez, ce sont des choses qui ont été écrites pour nous indiquer qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Ça explique un peu pourquoi certains combats sont difficiles. Il y a des chrétiens qui sont toujours en souffrance. Ils n'ont pas saisi cette opportunité de demander quand Jésus dit, et moi je vous dis, c'est moi, c'est Jésus qui parle. Et moi je vous dis, demandez. C'est parce qu'il va nous donner. Alors je prends ce texte parce qu'il est lié à ma prédication. Dans Deux Rois au chapitre 6, donc après cette compréhension de ce discernement du serviteur de Dieu, Deux Rois 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Ça, c'est une question que vous connaissez bien. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et là, quelque chose de merveilleux s'est passé, un miracle s'est passé. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous lirez la suite. Quelle expérience. Vous ne trouvez pas que c'est une expérience merveilleuse? Et mes frères et sœurs, je pense vraiment que par rapport à tout ce qui se passe dans nos foyers, dans nos églises, dans le monde, nous devrions souvent dire, mais Seigneur, ouvre mes yeux, que je réalise qu'il y a un combat. Il y a un combat, et si je ne mène pas ce combat, et si je ne vois pas que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre, si je ne vois pas la puissance de Dieu, si je ne vois pas le bras de Dieu, si je ne vois pas la puissance du Saint-Esprit, je vais me faire tout prendre. Et c'est ça que le diable veut. Parce que ce que le diable veut faire, dans un premier temps, c'est que l'on voit les choses d'une manière humaine. C'est lui, c'est elle. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est l'église, c'est celui-ci, c'est le maire, c'est le président. Et les gens, ils sont enfermés dans une analyse qui est purement humaine et c'est une analyse qui n'est pas bonne. Il y a un combat spirituel. Et le Seigneur a donné ces histoires pour expliquer que nous pouvions nous retrouver même incapables d'aider un ami. Ou la parabole des trois amis, c'est pas la parabole des trois ennemis, c'est la parabole des trois amis. Ça veut dire que nous pouvons nous trouver en situation où nous ne pouvons pas aider quelqu'un que nous aimons. C'est terrible, oui ou non? C'est terrible. Je ne peux pas aider ma femme. Je ne peux pas aider mon fils. Il m'énerve. D'ailleurs, je suis fâché avec lui. On l'entend pas, ça, des fois? On l'entend, on ne l'entend pas? Vous croyez que c'est la volonté de Dieu? C'est des combats, mes frères et sœurs. Si Dieu nous a donné une épouse, si Dieu nous a donné un mari, c'est pour qu'on soit des sources de bénédiction, l'un pour l'autre, pour nos enfants, pour l'Église, pour tous. C'est des paroles de Dieu. Tu seras une source de bénédiction. Est-ce que je le suis? Alors bien sûr que je peux aborder cette prédication sous cet aspect-là et entre guillemets, permettre au diable de culpabiliser. La mauvaise culpabilité, puis il y a la bonne culpabilité, celle qui vient de Dieu et qui dit, oui c'est vrai, ça ne va pas. Je suis incapable d'aider mes amis. D'ailleurs, je n'ai pas envie de me lever. Je ne suis pas capable. C'est une parabole. C'est Jésus qui l'a donné. Il ne l'a pas donné pour culpabiliser. Il l'a donné pour que nous rendions compte à un moment donné que ça peut être grave. Alors que Dieu dit, moi, je vous dis. C'est pas moi, le pasteur. C'est Jésus, le Tout-Puissant, qui dit, moi, je vous dis, demandez. Les chrétiens, ils prient plus. On va pas les juger. Il y a des couples qui prient plus ensemble. Moi, je trouve que c'est une bénédiction de prier avec son conjoint. Oui ou non? Peut-être pas passer des heures, mais est-ce que c'est bien de s'unir avec sa femme et dire, Seigneur, bénis nos enfants? Est-ce que vous croyez que ça peut plaire à Dieu, cette affaire? Priez avec ma femme, mais vous rigolez. On se fait à la tête toute la journée. On ne va pas prier ensemble. Alors, on peut dire des choses terribles. Alors que Dieu lui dit, demandez. Vous entendez? Demandez et vous recevrez. Je le sais pertinemment, que quand les chrétiens, quand nous les chrétiens, nous allons nous retrouver devant Dieu, nous allons certainement, je ne sais pas si ça va durer longtemps, je ne pense pas, mais il va y avoir un moment de frustration et de honte, malgré toute la joie qui va être la nôtre, d'être passé à côté de plein de choses que nous aurions pu avoir, que nous aurions pu réavoir, réobtenir. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous le voyez, le Seigneur n'arrête pas de dire, approchez-vous pour obtenir. Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir, qu'est-ce qu'il dit? Vous rappelez le texte? Hébreux 4, verset 16, approchez-vous avec assurance. Mais je n'ai pas d'assurance. Mais on ne te demande pas d'avoir de l'assurance parce que tu vas bien. C'est ça aussi le piège. Ah ben je ne peux pas m'approcher de Dieu avec assurance, tu as vu dans quel état je suis? Mais ce n'est pas une question d'avoir de l'assurance parce qu'on va bien, nous. C'est d'avoir de l'assurance parce que lui va bien et que lui ne me juge pas. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Pour passer un quart d'heure et se faire croire qu'on est un bon chrétien? Non, qu'est-ce qu'il est dit après? Afin d'obtenir, c'est pas écrit pour eux. Demander, c'est même pas demander, c'est obtenir. Afin d'obtenir, comme je vois que beaucoup ne le connaissent pas, on va le lire. Mais c'est sérieux, c'est des versets que vous devriez connaître par cœur. Pourquoi je vous dis ça souvent par cœur? Parce que le Saint-Esprit ne peut vous rappeler que ce qu'il vous a enseigné. C'est Jésus qui l'a dit ou non ça? C'est Jésus qui l'a dit. Mes frères et sœurs, moi je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi j'ai mes luttes et j'ai mes combats et j'ai mes moments difficiles. Et je peux vous dire que je remercie le Saint-Esprit pour toutes les fois où il me rappelle tous ces versets que j'ai appris par cœur. Et je bénis Dieu pour le jour où mon pasteur m'a dit, Gérard, apprends des versets par cœur. Ce n'est pas pour faire de moi un théologien, c'était pour que le Saint-Esprit puisse me rappeler. Regardez ce verset s'il n'est pas beau. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance. De quoi? Du trône blanc, du trône du jugement? C'est quoi qui a écrit dans votre Bible? Parce que vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec les textes. Mais croyez-moi que l'Apocalypse parle de notre trône. Et ce ne sera pas le trône de la grâce. Ça sera le grand trône blanc. Il n'y aura plus une question de grâce. Il n'y a personne qui chante autour là. Quand vous regardez l'Apocalypse au début, autour du trône, tout le monde chante, tous les anges se réjouissent, tout le monde est là. Le grand trône blanc, je vous assure que ça ne chante pas beaucoup. Hein, et pour cause. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il est assis sur le trône de la grâce, notre Seigneur, mes frères et sœurs. Afin d'obtenir. Écrivez-le, soulignez-le, surlignez-le. Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je ne sais pas quel est votre besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin comme secours. Je ne sais pas si vous avez besoin de miséricorde, de grâce. Je ne sais pas quel est votre besoin. Mais mes frères et sœurs, ne pensez pas que quand vous allez vous présenter devant Dieu, vous pourrez dire, mais tu aurais dû me donner ça. Oui, pourquoi tu ne l'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas persévéré? Pourquoi tu n'as pas cherché? Vous savez, des fois, il faut chercher. Je commençais à préparer cette prédication, je priais, et pendant que je préparais cette prédication, je pensais à un vieux cantique sur les ailes de la foi, c'est « Apprends-moi à t'aimer ». Connaissez ce vieux cantique? « Apprends-moi à t'aimer ». Je vais dans le lexique et je cherche « Apprends-moi à t'aimer ». Je ne trouve pas. Et je dis « Je sais que ce cantique, il est dans les ailes de la foi, je le sais ». Apprends-moi à t'aimer. Vous connaissez ce cantique? Alors je me suis dit, tu vas commencer, tu vas le trouver. J'ai commencé tous les cantiques, tous. Je dis, tu vas le trouver. J'ai commencé par le début, c'est le 611. Vous avez compris? Et puis j'ai dit, c'est pas apprends-moi à t'aimer, c'est viens m'apprendre à t'aimer. Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas trouvé? 611 cantiques que j'ai cherché. Mais ça indique bien ce que je veux vous enseigner, c'est qu'il faut persévérer. Quand on veut quelque chose, on ne va pas persévérer. Les sœurs, quand vous voulez une jolie robe qui vous convienne, vous allez faire combien de boutiques? Allez. Combien de boutiques vous êtes capable de faire pour trouver la robe? Allez Sophie, répondez. 18? 12? 3. Mais c'est pas, franchement mes frères et sœurs, est-ce que c'est pas vrai quand on veut quelque chose? Quand on veut quelque chose humainement, on va le faire. Si j'ai vraiment envie d'un morceau de poisson, mais je sais où aller. Je ne vais pas aller chez la fleuriste. Vous êtes d'accord? On le sait. Si on a besoin d'un bon beefsteak, on sait où il faut aller. Si le réservoir à essence, il est sec, eh bien on sait où il faut. On le sait. Vous êtes d'accord avec moi? On trouverait ridicule que quelqu'un aille chercher du poisson à la station essence. Mais il n'est pas bien. Mais combien spirituellement nous avons besoin de réaliser que nous avons un Dieu qui dit à plus forte raison. Si nous, méchants comme nous sommes, et c'est vrai que des fois on n'est pas toujours bien disposé, et pourtant on va bénir nos enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez toujours eu envie d'aider vos enfants? Des fois non, et pourtant vous l'avez fait. Pourquoi? Parce qu'on les aime, oui ou non? C'est vrai ça. Il y a des fois, bon, eh bien, on l'a fait quand même parce qu'on les aime, ce sont nos enfants. Nous étions mal disposés, nous étions entre guillemets méchants et nous l'avons fait. Nous, méchants comme nous sommes. Alors à combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera ce dont nous avons besoin. Et je sais que ce matin parmi nous, il y a plusieurs frères et sœurs qui sont en panne, qui sont frustrés parce que vous ne recevez pas ce que Dieu voudrait vous donner. Il y a des choses qu'on doit donner aux autres. Il y a des choses que Dieu veut que nous apportions aux autres. Et on est dans une société qui est tellement blindée d'égoïsme, blindée de méchanceté, blindée de plaisir, que les gens y pensent qu'à eux. On n'entend plus, c'est rare. L'autre jour, j'ai entendu une jeune fille de l'église qui m'a dit, « Monsieur Gault, c'est mon devoir de prier pour vous. » J'ai dit, « Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. » Et bien, ça m'a touché. Les gens, « Oui, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. » J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. C'est rare quand on entend quelqu'un qui dit c'est mon devoir de prier pour le pasteur. C'est mon devoir de prier pour l'église. Et c'est grave. Hein? Nous ne le réalisons pas parce que souvent nous sommes anesthésiés, nous sommes là paralysés, nous sommes comme peut-être comme Lazare, bien sûr, on est ressuscité, gloire à Dieu. On sait qu'il y a un héritage, mais on n'y entre pas. On sait qu'il y a des promesses, elles sont merveilleuses, mais on ne les saisit pas. Et ça crée de la frustration. Ça crée, et on va pas se laisser écraser. Mais mes frères et sœurs, le diable, il le sait. Moi, je suis en train d'étudier le livre de Job. Alors c'est vrai que c'est poétique. Donc ça fait que les phrases, c'est super bien tourné. Mais la méchanceté des trois amis de Job, la méchanceté, un moins que l'autre peut-être, que les deux autres, mais quand même, ils n'ont pas été piqués des vers, comme on dit, pour faire du mal. Vous savez, on peut faire du mal avec des paroles. Est-ce que vous le savez? Comment on peut blesser? Quand on est n'importe quoi, dans l'épreuve, mais aussi... On peut faire du mal. Et dans les couples, combien de gens se font mal? En plus, quand on se connaît bien dans un couple, on sait très bien ce qui peut blesser l'autre. Oui ou non? Ma femme, elle sait ce qui peut me blesser. Et je bénis Dieu qu'elle ne le fasse pas. Moi, vous savez, c'est des choses qui me font pas rire parce que j'ai vu des couples bousillés par une parole. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec la langue? Est-ce que c'est biblique? Sans le toucher avec la langue. Et le diable, je peux vous dire qu'il s'y entend. Nous sommes là, nous chantons, Seigneur, apprends-moi. Je veux apprendre, oui, je veux apprendre, comme on l'a vu ces deux dimanches passés, qu'il y a du bon sens, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à réapprendre. Seigneur, mais tu vois, j'ai rien à offrir, c'est grave. Je ne peux même pas donner à la femme que tu m'as donnée. Je ne peux même pas donner à mes enfants. Je suis tout le temps vide. Seigneur, j'ai rien à t'offrir. Eh bien, moi, je vous dis que si tu ne te lèves pas, tu peux quand même comprendre qu'il y a un Dieu. Que si toi, tu n'as rien, Dieu, il a tout. Mais vous le croyez, ça? Que dans les greniers de Dieu, ça n'a rien à voir avec la CPAM? Vous le croyez? Que les greniers de Dieu, ils sont pleins? Et que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Mais de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Eh bien, on va lire un texte. On va lire un texte. Et je voudrais que ce mois-ci, peut-être tout le mois d'août, vous vous appropriez ce texte. Ce texte que Dieu appelle une voie par excellence. C'est pas rien. C'est 1 Corinthiens 13. Vous connaissez? Vous connaissez, on connaît par cœur. Par cœur, c'est comme le psaume 23. Mais faire le connaître par cœur, c'est bien, mais... Paul dit au 1 Corinthiens chapitre 12, vous savez qu'il y a deux chapitres sur les dons, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. C'est des dons, c'est important les dons. C'est très très important les dons spirituels. Mais Dieu dit qu'au-delà des dons qui sont passagers, il y a une voie excellente, qui est une voie qui durera dans l'éternité. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons. Vous aspirez aux dons? Je vais vous faire un gros reproche. Je sais que dans l'église, vous êtes paresseux certains. Que plusieurs vous devriez prophétiser et vous ne le faites pas. Et en plus, vous avez le culot de dire, c'est toujours les mêmes qui prophétisent. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ben c'est pas bien. C'est pas bien. Aspirez au don, parce que Dieu peut vous donner une pensée qui va bénir l'Église. Une pensée qui va fortifier, qui va amener quelqu'un au salut. Vous voyez, c'est écrit, 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Et tant que j'y pense, il y a un verset qui me vient à l'esprit. C'est à la fin, dans le chapitre 14, au verset 37. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, moi, de réflexions positives et négatives, pas intelligentes parfois, par rapport aux dons. Mais regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, est-ce que vous êtes spirituel? Alors, attendez. Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme sauveur? Bon, ça va mieux. Si quelqu'un est spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est quoi? C'est un commandement du Seigneur. Et un chrétien, il devait dire, mais c'est vrai, je veux aspirer au don. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner un don pour dimanche prochain? Peut-être que vous serez dans une église en vacances, et il y a peut-être un couple qui est en vrac, qui a besoin d'une parole. Je dis ça parce que ce matin, je crois que j'ai péché en ne donnant pas un don spirituel. Mais mes frères et sœurs, aspirez aux dons spirituels, aspirez-y. C'est comme ça que l'on réobtient ces choses. Vous avez vu à combien plus forte raison le Père Céleste donnera. Alors on continue, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Mes frères et sœurs, il y a une voie. Ce n'est pas Paul qui l'appelle excellente, c'est Dieu. Il y a une voie excellente dans le royaume. Eh bien, lisons-la. Lisons-la avec sérieux, avec cœur, mes frères et sœurs. Même si vous avez lu ce chapitre, je ne sais combien de fois, relisez-le, il vient de la bouche de Dieu. Il vient du cœur de Dieu, ce chapitre. C'est écrit que toute parole sortira de la bouche de Dieu. Lisons-le, s'il vous plaît. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. Dans une autre version, il est dit, il est serviable. Il est serviable. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, rechercher l'amour. Amen. Vous êtes d'accord ? C'est bien d'avoir une foi qui transporte des montagnes, c'est bien tout ça, on doit y aspirer, elle fait partie de ces trois choses qui doivent demeurer dans le cœur d'un chrétien. Je dois avoir une foi vivante et je dois la développer cette foi en lisant la parole, je développe une foi vivante, je comprends certaines choses, je ne suis pas là replié avec mon caractère en disant oui mais c'est comme ça. En préparant ce texte je pensais à l'amour justement, je pensais à ce centenier, vous savez ce centenier romain qui occupait donc Israël. C'est une histoire qui est très connue dans la Bible. Ce centenier, donc, il y a un capitaine qui dirigeait 100 soldats. Moi, j'étais engagé dans l'armée. Et aujourd'hui, l'armée, on a une certaine... Moi, je vous assure que la première des choses que vous apprenez quand vous faites l'armée, j'étais dans une compagnie de combat, la première chose qu'on nous a dit, le premier jour, la première chose, on ne doit pas saluer l'oreille, vous êtes ici pour apprendre à tuer. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, c'est pas possible. Et ce centenier, il avait appris à haïr. Parce qu'apprendre à tuer, il faut apprendre à haïr. Il y a toute une philosophie dans l'armée. Nous, on vous montre des gars qui font du rappel dans un hélicoptère pour vous forcer à vous engager. C'est pas ça l'armée. Et cet homme, il avait appris la haine. Il avait appris à tuer. Et il va faire une démarche un jour. Et il va faire une démarche parce qu'il aime. Il aime son serviteur. Il est même dit, c'est un truc de fou, c'est pas lui qui le dit, il aime notre nation. Et il nous a construit la synagogue. C'était pas de l'amour philosophique, je t'aime chérie, tu sais je t'aime. Mais tu m'aides jamais, mais je t'aime, je peux pas t'aider, je suis tétanisé par l'amour. Il aime notre nation. Cet homme, malgré la haine qu'on lui avait inculquée, malgré l'enseignement à apprendre à tuer, cet homme, il a dit non, il a décidé d'aimer. C'est écrit. Et quand il va dire certaines choses, Jésus va se tourner vers les religieux, les pros de l'amour, et va leur dire, voyez, même en Israël, ils étaient furieux, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il dit à cet homme, va, parce qu'il lui avait dit, dis-moi un mot. Il avait compris l'autorité, la puissance du Seigneur. Il n'a pas dit, viens dans ma maison, pose les mains sur mon serviteur. Il avait compris. Dis un mot. Et cet homme va arriver à sa maison, il va voir son serviteur guéri. Il avait décidé d'aimer. Ne dites pas, arrêtez mes frères et sœurs. Oui, mais vous ne comprenez pas, moi j'ai pris des torgnoles toute ma vie par mes parents, et c'est pour ça que je suis nerveux. Écoutez, moi j'en ai marre d'entendre ça. Parce que ça ne vous aidera pas à devenir un véritable chrétien. Un chrétien, il a un Dieu qui est tout puissant et qui vous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Parce que mes frères et sœurs, la porte elle est encore ouverte et Jésus est assis sur le trône de la grâce. Donc vous pouvez tout obtenir, tout, le pardon, la miséricorde, la joie, la paix, cette faveur, du pain pour mes amis. Oui, je veux faire du bien. Tu me demandes d'aspirer au don, ben je vais le faire. Parce que je veux être utile. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a de plus en plus de gens qui sont inutiles. Mais c'est grave. C'est pas qu'on recrute des gens pour avoir une église en super santé. C'est parce que le cœur du chrétien devrait aspirer à ces choses. On l'a lu. Ce que je vous dis, c'est pas moi, Paul, qui vous le dit. C'est un commandement du Seigneur. Ah, monsieur, vous arrêtez avec les commandements. Les commandements, c'est des bénédictions, mes frères et sœurs. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et je crois qu'on pourrait prendre plusieurs textes, mais ça, c'est un travail personnel. L'exhortation, c'est une chose que je suis en train de faire, mais après une démarche personnelle, me dire, mais Seigneur, je vais m'attaquer à ce chapitre 13. tout en aspirant au don, etc., parce que c'est un commandement. En même temps, je vais rechercher l'amour. Est-ce que Dieu est capable de vous remplir d'amour? De vous re-remplir d'amour? J'en ai parlé dimanche dernier, l'apôtre Paul, un certain Saul de Tarse. Un certain Saul de Tarse, mais on va le lire. Je voudrais qu'on le lise, parce que je ne pense pas que les chrétiens réalisent comment un homme comme Saul de Tarse est décrit par le Saint-Esprit. Acte 9, verset 1er. Regardez comment Dieu lui-même nous donne la biographie de Paul. Non mais ça fait peur. Regardez. Acte 9, verset 1er. Cependant, vous y êtes? Regardez comment Dieu a voulu que nous comprenions comment était cet homme avant sa conversion. Cependant, Saul, donc il va devenir l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a écrit 1 Corinthiens 13, respirant encore, qu'est-ce qu'il respire? La menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il va se rendre chez un souverain sacrificateur pour obtenir des lettres pour faire tuer les chrétiens, les persécuter, les arrêter. Et le Saint-Esprit, parce que vous savez que Dieu est discret, très discret. Il nous présente les choses d'une manière très sommaire. Mais quand il nous présente quelque chose, c'est pour nous montrer des vérités. Il respirait le meurtre, il respirait la menace, la méchanceté. Et quand vous le voyez après écrire en Corinthiens 13 ou ailleurs, l'amour de Christ me presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi. Il a choisi d'aimer. Et mes frères et sœurs, je pense que sérieusement, ça vaudrait la peine. Peut-être seul dans la chambre, de dire, Seigneur, c'est vrai, j'aime le psaume 23, j'aime le psaume 23. Mais Luc 11, c'est ce qu'il me fallait entendre. Je ne suis même pas foutu d'aider quelqu'un de ma famille. Je ne suis pas capable de rendre service à ma femme. Je ne suis pas capable de donner un morceau de pain. Le morceau de pain, c'est comme le verre d'eau. C'est des petites choses. Vous êtes d'accord quand Jésus dit celui qui donnera un verre d'eau froide. Un verre d'eau froide, c'est le minimum. C'est un tout petit truc. Et pourtant, Dieu dit que celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de ses amis, qu'est-ce qu'il en aura? Qu'est-ce qu'il aura? Une récompense éternelle. Dieu n'oublie pas. Nous, bien sûr, on fait des choses. C'est pas grave, c'est rien. Oui, mais c'est Dieu le voit. Tout est enregistré. Je crois que le Seigneur, il nous encourage aussi. Quand vous donnez des timbres, vous savez pour la mission, même des timbres oblitérés qui servent à des collections, c'est des verres d'eau ça. Mais on le fait pour le Seigneur. Et au ciel, on aura des récompenses. Vous aurez des récompenses. Vous qui donnez votre dîme, qui le faites sérieusement, consciencieusement, voilà, cet argent, nous, avec le conseil, eh bien on le gère sérieusement. Vraiment, c'est sérieux. Je vous assure, je me fais un point d'honneur en tant que responsable de l'Assemblée de faire attention à ce que chaque euro soit vraiment utilisé pour le salut des âmes. Mais ces choses-là se recherchent. Rechercher l'amour. Seigneur, je veux apprendre à aimer. Je veux apprendre à aimer, Seigneur. L'amour est patient. Est-ce que ça vaut la peine de revenir sur tout ce descriptif d'un Corinthiens 13, l'amour? L'amour est serviable, tiens. Depuis quand vous n'avez pas servi? Ah, moi je suis fatigué, écoute, j'en ai assez. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous croyez qu'il y a de la joie à donner? Est-ce qu'il n'y a pas de la joie à se donner pour les autres? Vous n'avez pas connu cette affaire? D'avoir de la joie dans votre cœur, de vous donner pour quelqu'un. De prendre du temps pour quelqu'un. L'amour, il est serviable, il ne peut pas ne pas être serviable. Alors, si vous ne faites plus... Moi, je vous le dis, c'est un grand danger. La parabole, j'en ai parlé régulièrement, et je sais que c'est la volonté de Dieu que j'en parle. La parabole des talents indique le danger qu'il y a d'enterrer un talent. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont nous fatiguer, et en plus, ça ne va pas s'arranger. Parce qu'à cause de l'iniquité, on est ceux qui ne veillent pas, ceux qui ne s'appliquent pas à travailler à leur salut. Ceux qui ne font pas attention seront inspirés par cette affaire. À cause de l'iniquité, l'amour d'un tout petit nombre se refroidira. C'est ça qui est écrit? Non mais ça fait peur. L'amour du plus grand nombre. Et ça, on peut y faire face. On a le Saint-Esprit, on a le Seigneur, il est tout puissant, il nous a donné toutes les armes. Toutes les armes, il le dit. Vous prenez toutes les armes. On peut pas, on peut pas se dire, voilà, moi je suis désarmé, hein, en un seul mot. Je suis désarmé. Oui, et bien si vous l'êtes, reprenez-les. Demandez au Seigneur. Si vous n'avez pas confiance à un pasteur, si vous n'avez pas confiance à un serviteur, à un ancien, je comprends. Mais demandez-lui à lui. Ah non, je ne vais pas aller voir M. Gault parce qu'il va peut-être me dire de faire ci ou de faire ça. Non, je n'ai pas confiance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais demandez au Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Demandez à votre Père Céleste. Oui, je suis d'accord. Je sais que virtuellement, je manque de rien. Je le sais, si le Seigneur est mon berger, je manquerai de rien. Mais quand même, je perçois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, recherchez-les. Recherchons-les. Recherchons-les tout à nouveau. L'Évangile, c'est sérieux. Je vais rechercher la patience. La patience ? Mais je l'ai, la patience. Je l'ai. Je ne dis rien, d'ailleurs. Je me tais. Ça fait des années que je ne dis plus rien. Je ne me sers pas d'histoire avec ma femme. C'est pas tout à fait la patience. Mais je l'entends. Ça vous fait rire. Ça s'appelle ça la résignation, mais c'est pas la patience. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que si humblement, je me tiens devant Dieu, dans ma chambre, tout seul devant Dieu, je dis, Seigneur, je t'en prie, donne-moi de la patience. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous la donner? Sincèrement. Est-ce que vous croyez que quand Jésus s'est présenté dans la synagogue de Nazareth, ce jour merveilleux, où il a pris le rouleau de prophète Esaïe, et qu'il a dit, voici, ce jour est accompli, cette prophétie est accomplie, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous croyez que c'est pas ça? Ça veut dire quoi, guérir ceux qui ont le cœur brisé? Eh bien, j'en ai marre, je suis impatient, je sens que mon foyer va exploser. Mais Seigneur, dans la prière, donne-moi de la patience. Donne-moi d'aimer. Je veux aimer. Ce centenier, je peux vous dire que, vous le verrez au ciel si je pense qu'il s'est converti, parce qu'en plus, dans le contexte, on en déduit qu'il n'est pas encore chrétien. Il n'est pas encore chrétien. Et pourtant, il avait décidé d'aimer. Il y a des gens dans le monde qui ont une moralité à nous faire rougir. Mais mes frères et sœurs, moi je vous dis ce que le Seigneur a dit. Demandez. Oh, je prie, mais ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous traitez la prière. Vous vous rendez compte comment vous traitez, pas la prière, mais le Dieu qui a institué la prière. Qui c'est qui a institué la prière? C'est le Seigneur. Oui ou non? Vous êtes d'accord? C'est une bénédiction la prière ou non? Ah, moi je ne prie plus, j'en ai marre, ça ne sert à rien. Mais quand vous parlez comme ça, vous attristez le Saint-Esprit, c'est évident. Mettez-vous à genoux et demandez pardon. Mais ne parlez plus comme ça. Je me souviens, j'avais fait un séminaire dans une église, je vous l'avais déjà raconté. Il y a une dame qui m'attendait à la sortie, je voyais qu'elle était en colère, elle trépignait. J'avais fait 3 ou 4 jours, tout sur la prière. Et elle était en colère, je le voyais. Alors bon, comme il y avait qu'une porte, j'ai dû la rencontrer. Alors, elle me dit, Monsieur Gault, vous n'avez pas prêché pendant 4 ou 5 fois sur la prière. Il y en a marre d'entendre parler sur la prière. Et j'ai dit, c'est tout ce que vous avez retenu de toutes mes prédications? Alors bon, je lui ai parlé et je lui ai dit, c'est quand même dommage que vous n'ayez pas compris que si Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il veut nous donner. Ah non, je n'avais pas compris. J'ai dit, ma sœur, que c'est grave. Et quand je vois, et vous savez, ça me fait mal au cœur quand même, quand je vois des chrétiens qui commencent à parler comme ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils font l'effet inverse, et ce n'est pas étonnant qu'ils se retrouvent coincés dans leur lit, j'ai rien à offrir, mais c'est grave, on ne devrait pas dire, il ne faut pas dire, bon c'est une fatalité, bon ben c'est comme ça, de toute façon j'en ai marre. Non, un chrétien, il ne parle pas comme ça. Et j'emploie ce mot que je n'aime pas utiliser dans la prédication parce que je trouve que c'est limite. Mais je l'emploie volontairement pour que vous compreniez bien qu'il ne faut pas parler comme ça et dire non, maintenant je vais recevoir, je vais rechercher l'amour. Et croyez-moi, je ne sais pas, il y a des choses que vous pouvez demander à Dieu, il ne vous les donnera pas. Vous pouvez prier tant que vous voulez pour gagner au loto, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Mais je peux vous dire que si vous vous mettez devant Dieu et le Seigneur, je veux aimer, je veux réapprendre à aimer. Même ma femme. savez, quand vous entendez comme un chrétien qui vous dit « j'aime plus ma femme », franchement, vous croyez que ça me fait sauter de joie? Sérieusement. Mon mari, mais il m'énerve. Mais il m'énerve. Quoi que, tu me l'as déjà dit, ça, non? Ouais, tu me l'as déjà dit. Ouais. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Mais est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver? Ben, bien sûr. Mais mes frères et sœurs, c'est le Seigneur, c'est signé Jésus. Et moi, je vous dis, demandez, cherchez. Il y a une progression. Il ne faut pas dire, ouais, demandez, bon, mais je... Il faut être, oui, c'est, je vous donne, Seigneur, donne-moi de l'amour. J'ai compris, j'ai bien compris, donne-moi de l'amour. Et la semaine prochaine, ouais, j'ai demandé l'amour et ça n'a pas marché. Je ne sais pas comme ça. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il faut aller jusqu'à la porte. Il faut aller jusque là où le Seigneur il est. Ah, mais j'ai pas le temps. Ah bon? T'as pas le temps? T'as pas le temps? Et t'as eu 2 heures ou 3 heures pour aller voir un film qui te faisait plaisir cette semaine? Eh bien, moi, je ne te le reproche pas si le film, il est bien. Mais mes frères et sœurs, personne ne pourra se trouver devant Dieu. Personne. Personne aura le culot de dire à Dieu, « Seigneur, j'avais besoin de ça, pourquoi tu ne me l'as pas donné ? J'avais besoin d'amour, et pourquoi tu ne me l'as pas donné ? J'avais besoin des dons spirituels, pourquoi tu ne les as pas donnés ?» Tout genou fléchira et toute bouche sera fermée. Nous avons un Dieu qui nous dit, voilà, il y a de l'amour. Et quand Paul dit, l'amour de Christ me presse, ça veut dire, un peu, j'ai regardé dans des commentaires, ça veut dire qu'il ne peut pas s'échapper. Il est tellement entouré par l'amour de Dieu, il ne peut pas s'échapper de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut demander ça au Seigneur? Seigneur, je veux aimer. Je veux déjà aimer mes parents. Je veux aimer mon conjoint. Je veux aimer mes enfants. Je veux aimer mes collègues de boulot. Je veux aimer les chrétiens. Je veux même aimer mes ennemis. Est-ce que Dieu peut nous donner de l'amour pour nos ennemis? Ben oui. Mais bien sûr, ça vient pas de là, ça vient de là, ça vient d'en haut, ça viendra pas de vous, n'essayez pas de chercher en vous. Je suis zen, je cherche, je suis décontracté. Il y a des chrétiens, des fois, est-ce qu'on peut faire un peu de yoga, ça va nous faire du bien, je cherche en l'intérieur, je cherche à l'intérieur la paix cosmique. Mais vous savez qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui se font piéger par des trucs pareils. Non mais, frères et sœurs, ça devient grave. La paix, vous la trouverez pas en vous. La paix, c'est Dieu qui la donne. L'amour, c'est Dieu qui le donne. Toutes ces choses, c'est Dieu qui... Mais demandez-les. Ne dites plus, j'en peux plus. Dites au Seigneur, tu vas me donner. Oui, j'ai rien à t'offrir, mais ça ne va pas durer longtemps. Je veux pouvoir aider mes enfants. Je veux que ça commence à ma maison. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, j'ai rien à donner, on voit dans les propos du Seigneur que lui, il n'est pas dépassé, il n'est pas dépassé par ces choses. Rien ne le dépasse. Celui qui siège sur les cieux, laissez-moi vous dire qu'il règne. Et ce matin, il nous le dit, demandez. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, restez le temps qu'il faut dans la présence de Dieu, pas comme une espèce de record de temps. Ah, j'ai prié 1 heure, je vais essayer 1h10, comme les gens, vous savez, qui font du footing. Ah, j'ai fait 12 bornes, mais la semaine prochaine j'essaierai d'en faire 14. C'est pas tout à fait ça que j'explique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du temps béni dans la présence de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ces chapitres-là, alors j'en avais marqué plein sur mes feuilles. Jean 13, etc. C'est des chapitres, de toute façon, des chapitres sur l'amour, vous pouvez en chercher, vous n'aurez pas du mal à en trouver. Jésus, quand il allait être arrêté, est-ce qu'il savait ce qu'il allait vivre, Jésus? Est-ce qu'il le savait, ce qu'il allait traverser les dernières 24 heures? Il le savait? Vous savez ce qui est dit de lui? Qu'il a rassemblé les 12 dans la chambre haute et il est dit, on va le lire. Moi, c'est des paroles, moi, c'est des textes qui me font pleurer de reconnaissance, vraiment. Il savait ce qu'il allait vivre et regardez ce qu'il fait. Vous l'avez peut-être lu 100 fois, mais quand même, c'est écrit. Moi, ça me bouleverse, je vous le dis franchement. Je vous assure, Jésus savait qu'il allait être abandonné de tous. Tous l'ont abandonné. Vous entendez? Tous. Et encore, c'est rien à côté de ce qu'il a vécu. Et regardez ce que le Saint-Esprit a écrit, a fait écrire à Jean. Jean 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Regardez bien. Mais regardez bien. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, qu'est-ce qu'il écrit après la virgule? Je ne sais pas si vous réalisez. Il mit le comble à son amour. Pour eux. Le comble. Vous savez, quand on dit cette salle, elle était comble. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne peut plus mettre quelqu'un. Là, elle n'est pas comble, vous voyez, des places de libre. On peut rajouter du monde. Ça arrive que la place, l'église soit comble. On ne peut plus rien ajouter personne. Eh bien, voyez, il savait qu'il allait vivre ce qu'il allait vivre, qu'il allait être crucifié. Crucifié, je ne sais pas si vous voulez. Il est le Seigneur. Il est né dans une étable. Est-ce qu'il savait qu'il allait naître dans une étable? Attendez, il a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il savait qu'il allait naître dans une étable? Est-ce qu'il le savait? Il a mis le comble de tout, toujours, de toute façon. Et c'est quelque chose que l'on pourrait vivre. Seigneur, donne-moi de vivre ces choses. Je veux être comblé de ton amour. Je veux réapprendre à aimer. Parce que des fois, on parle, vous savez, il y a des gens qui parlent, ils veulent le baptême du Saint-Esprit, tout ça, c'est bien, c'est excellent. Mais on le voit, on peut avoir tous les dons et tous les prophéties et tout ce que vous voudrez. Si on n'a pas l'amour, ça sert à rien. Et il y a des gens qui sont, oh, celui-là, il prophétise. Ça doit être un bon chrétien. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est vraiment rempli d'amour. S'il prophétise, c'est qu'il a reçu le don de prophétiser. S'il prêche, c'est parce qu'il a reçu le don de prêcher. C'est pas pour ça que c'est le meilleur de l'Église. Le meilleur, c'est celui qui aime le plus. Il n'y a que Dieu qui le voit. C'est peut-être que quelqu'un qu'on n'a jamais entendu prier, quelqu'un qu'on n'a jamais entendu louer. Ça ne veut rien dire, tous ces trucs. Ce qui veut dire quelque chose, c'est d'aimer. Parce que quand on passera devant Dieu, et je termine avec cette pensée, ne faites pas l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent en disant, mais moi, quand je serai avec le Seigneur, je l'aimerai. C'est sûr, vous aurez aucun effort à faire. On sera parfait. On connaîtra tout. Les chrétiens qui ont été mûrs vont même juger les anges déchus. Ça prouve qu'ils auront la connaissance de tout ce qui s'est passé. Parce que pour juger un ange déchu, il faut connaître son parcours. Vous êtes d'accord? Donc les chrétiens connaîtront tout. Il n'y aura aucun effort à faire. Aucun, ça sera terminé. Moi, ça me va bien. Pour aimer. Et si on veut prouver à Dieu qu'on l'aime, ce n'est pas après. Si vous voulez prouver, si nous voulons prouver au Seigneur que nous l'aimons, c'est maintenant. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est maintenant. Alors soyons honnêtes. Oui, je peux lire le psaume 23, mais ce serait peut-être bien pendant quelques jours que je me cale sur Luc 11 et que j'en fasse une affaire personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prie le Seigneur? Qu'on lui demande sa grâce. Notre Père, combien nous te sommes reconnaissants de ce que nous percevons dans cette parabole, non pas une condamnation ou un jugement, mais nous percevons bien ta grâce infinie, ton amour, ton plaisir de nous aider. Seigneur, nous sommes, oui, certainement plusieurs dans ce cas, à être assis, couché, et ne même pas avoir un bout de pain à donner. Seigneur, pardonne-nous. Pardon. Nous croyons que nous pouvons rechercher l'amour, que si tu nous l'as dit, c'est parce que tu veux nous la donner. Nous croyons que bientôt nous serons avec toi, Seigneur Jésus. Vraiment, nous le croyons. Dans ce jour où nous serons glorifiés, semblables à toi. Mon Dieu, quel bonheur. Mais en attendant, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous priver de tout ce que tu veux nous donner. Tu vois, ceux qui parmi nous ont besoin de courage, je sais qu'ils peuvent le puiser en toi. Ceux qui ont besoin d'amour, de tendresse, d'affection, de pardon, mon Dieu, merci de savoir que le ruisseau, ton ruisseau, est plein. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous sommes passés à côté de tout ce que tu avais à nous donner, et fais que les jours à venir, nous devenions, pour la gloire de ton nom, ces instruments de bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.